France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Peut-être que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous voyez pas que c'est un peu réservé à une certaine élite ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville.
Ces dernières années, avec l'expérience des confinements, la musique a une fois encore révélé toutes ses vertus. Complice, rassurante, thérapeutique, elle était là. Du concert à la radio, en passant par le CD ou le fichier numérique, elle nous a permis, plus qu'en toute autre occasion, d'ouvrir grand les fenêtres, de nous évader. En ce temps automnal, elle nous invite même à rêver d'un automne au soleil version Piazzolla, ou plus au frais avec Prokofiev. Nous pourrions aussi rêver de l'arrivée des divinités du printemps un petit peu en avance. Laissons libre cours à notre imagination et rêvons. Extrait du Sacre du Printemps pour démarrer cette émission. Igor Stravinsky, ici cette danse sacrale pour vous accueillir. Bonjour voyou.
Bonjour.
Quel plaisir de vous accueillir. Musicien pop, auteur, compositeur, interprète. Ici, c'est l'arrivée d'un printemps un peu tumultueux que vous avez choisi.
Un petit peu.
Pour démarrer.
Presque effrayant même, je dirais.
Presque effrayant, ouais. Carrément effrayant. Cette danse sacrale, c'est celle d'une jeune vierge élue qui sera sacrifiée pour remercier les divinités de l'arrivée du printemps dans ce ballet de Stravinsky. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette œuvre pour démarrer l'émission ?
Eh ben, pas cette histoire parce que je la connaissais pas et c'est terrible. Mais je sais pas, ça fait partie des morceaux de musique classique qui m'ont un peu fasciné parce que j'arrivais pas du tout à les comprendre. Et qu'en même temps, je me laissais complètement submerger par ce qui se passait, quoi. C'est très impressionnant comme musique, quand même.
Ça, c'est sûr. Mais faut-il comprendre pour aimer ? C'est une question qu'on se pose souvent dans cette émission.
Eh ben non, je pense pas du tout. Et là, pour le coup, c'est vrai que quand j'ai découvert ça, j'étais assez petit et je comprenais rien du tout. Et en même temps, il se passe tellement de choses partout, dans tous les sens, des instruments qui arrivent à un endroit, d'autres à d'autres endroits.
Et qui vous l'a fait découvrir ?
Eh ben ça, je pense que c'est mon père, comme beaucoup de choses de musique classique d'ailleurs. Et ça faisait partie de l'espèce de montagne de CD, tout aussi effrayante que ce morceau d'ailleurs, qu'il y avait chez lui, où il n'y avait que de la musique classique et où des fois je choisissais quelque chose au hasard et je le jouais. Et quand on tombe sur quelque chose comme ça au hasard, on ne sait pas tout de suite si on a fait le bon choix, mais en tout cas, à la fin, on est quand même content d'avoir écouté.
Ça interpelle, du ouais. moins. Et c'est aussi très différent de votre univers à vous, de musicien. Ouais. Votre pop est plus douce, plus colorée, plus positif, tout simplement.
Ben, j'espère, en tout cas. Mais ouais, c'est vrai, ouais. Mais j'ai l'impression qu'il faut un peu de tout. Enfin, ce que je fais comme musique n'est pas toujours lié à la musique que j'écoute, et non plus à la musique qui m'a influencé. Et ça, c'est vrai que... C'est à la fois si bruyant et à la fois, je sais pas, si prenant que ça inspire quand même beaucoup de choses, quoi.
Et puis, c'est une musique qui est pleine de bois, de cuivre, pleine d'instruments avant ouais. aussi, ce Sacre du Printemps. Alors ça, j'imagine que ça a dû quand même titiller votre oreille, vous qui avez commencé la trompette tout petit.
Ouais, bah ouais, forcément. De toute façon, les cuivres dans la musique, ça a toujours été quelque chose qui a attiré beaucoup mon oreille. Aussi parce que mon père étant trompettiste, donc il m'a appris très tôt la trompette, mais avant même qu'il m'apprenne, je pense que le son du cuivre de la trompette, c'est un des premiers environnements sonores que j'ai eu quand j'étais petit.
Lui, il répétait beaucoup. Comment décririez-vous cet univers ?
Moi, le premier souvenir que j'en ai, en tout cas, c'est un son assez lointain parce que lui, il répétait des gammes et des gammes et des gammes tout en haut de la maison. Du coup, moi, j'entendais cette espèce d'instrument à la fois extrêmement perçant et à la fois très doux. Qui sortait un peu de nulle part et j'avais ça en fond et en plus de ça je le voyais pas vraiment les premières fois où je l'entendais quoi.
Et ici, ce n'est pas le papa de voyou qui joue, mais cette trompettiste Ting Ting L7, accompagnée par l'orchestre de chambre de Norvège, Atle Spønberg à la direction, dans cet extrait du premier mouvement du concerto pour trompette en mi bémol majeur de Joseph Haydn que vous avez choisi, voyou.
Ouais.
Que vous jouez, vous ?
Ah non, pas du tout.
Pas du tout.
Mais que j'écoute,
vous avez essayé
par contre. J'ai déjà essayé de jouer un peu le début, mais c'était un peu quand j'ai commencé la trompette, vu que c'était conservatoire et tout ça. Ça faisait un peu partie, les concertos de Haydn en général, ça faisait partie des trucs que travaillaient les grands pour les médailles d'or et ce genre de choses.
Et vous étiez à quel conservatoire ?
J'étais au conservatoire de Lille pendant assez longtemps, jusqu'au moment où j'ai déménagé à Nantes. Et là, par contre, j'ai fait un an au conservatoire de Nantes et j'ai arrêté pour apprendre des instruments qui font du bruit et qui se branchent dans des amplis.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire de la guitare, de la basse, de la batterie, des choses comme ça.
Mais tout s'enrichit et puis la trompette est très présente dans vos titres. On va d'ailleurs écouter quelques extraits à suivre. Mais j'aimerais qu'on revienne au début de votre formation. Quelles ont été vos premières impressions ? Vous vous rappelez-vous de votre premier cours de trompette ?
Mon premier cours de trompette ? Ouais, je m'en rappelle très bien. Alors avant mon premier vrai cours de trompette avec un professeur, mon père il a commencé à m'apprendre tout petit, donc quand j'avais à peu près 3 ans, ce qui n'était pas les meilleurs souvenirs, hein, cela dit.
Pourquoi ?
Parce que je pense qu'il a vu très 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 tôt que je m'intéressais à la trompette, que j'avais toujours envie de prendre les trompettes qu'il y avait devant moi et j'ai essayé tout le temps de jouer, donc il a voulu m'apprendre très jeune. Sauf que pour lui, l'apprentissage commençait par mettre des livres sur mon ventre et m'apprendre à respirer, ce genre de choses. Et
ça,
après,
c'était moins rigolo.
C'était un peu moins rigolo.
On imagine un enfant de 3 ans, effectivement.
Avec des dicots sur le ventre. Ouais. Mais après, du coup, il a essayé de m'apprendre un peu des choses. Mais j'étais très réticent, au fait, de subir l'apprentissage de mon père. Je préférais que ce soit d'autres personnes qui le fassent. Et après, je suis allé au conservatoire de Lille, du coup, assez jeune. Et j'ai eu mes premiers cours. Et je me rappelle que je m'ennuyais beaucoup. Parce que j'avais l'impression de... Je comprenais pas pourquoi on me faisait jouer des notes longues et seules. Et... qui avait pas pour but de créer une mélodie. Enfin, je sais pas, je trouvais ça un peu étrange. Après, j'ai appris à aimer ça et surtout j'ai appris que j'étais là pour travailler et pas pour développer ma créativité.
Que cet apprentissage allait vous permettre par la suite de développer votre créativité.
Exactement, ouais. Mais ça, j'avais du mal. Enfin, j'ai toujours eu du mal avec tout l'aspect scolaire des choses et du coup avec le fait de répéter, répéter, répéter. Moi, j'avais envie juste de prendre ma trompette et d'essayer de faire des mélodies avec. Et...
Mais vous y êtes arrivé, ça tombe bien.
Ben ouais, mais il a fallu que je passe quand même par ces choses ennuyantes.
Exactement. Alors, on va écouter un titre à vous, Les bruits de la ville. Un extrait de cet album paru en 2019, Les bruits de la ville, où on vous entend chanter aux côtés d'Yel, mais aussi jouer de la trompette. C'était le cas aussi sur cet album des Confettis en désordre, où il y avait carrément un interlude offert à votre instrument. Vous lui laissez autant de place que celle que vous offrez à votre voix, finalement, voyou.
Eh ben ouais, et d'ailleurs, ça a été vachement plus dur pour moi d'accepter le fait de chanter que la trompette, parce que la trompette, c'est finalement un langage qui est plus naturel pour moi que le fait de chanter, par exemple. J'ai encore du mal aujourd'hui à considérer que je sois chanteur.
C'est vrai ?
Ouais, un peu. Ouais, pour plein d'autres raisons que ça, mais en tout cas, la trompette, c'est un truc où, par exemple, je suis incapable en soirée de chanter une chanson à des gens, à mes amis ou à des gens de ma famille et tout ça, ça me pétrifie complètement.
Par contre, si on vous donne
une
trompette à ce moment-là,
je peux jouer sans aucun problème et je sais pas, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose de plus prétentieux et qu'on met plus la personne en avant quand on chante que la musique, alors que la trompette, j'ai l'impression que c'est la trompette qui
voilà,
chante et pas moi.
Est,
et du coup,
est à l'extérieur et
voilà,
donc permet
ça
peut-être
fait barrière,
de créer
quoi.
Ouais. Une barrière, effectivement. Cela dit, il y a quelques mois, vous avez sorti encore un autre disque, Chronique Terrestre,
ouais.
Un disque entièrement écrit autour de la trompette. Elle prend de plus en plus de place, on en écoute un extrait. Comment avez-vous pris cette décision, voyou, de lui offrir un disque à cette trompette qui vous accompagne depuis votre plus jeune âge ?
Eh ben, en fait, c'était un moment où, un moment que je pense beaucoup de musiciens ont subi de manière un peu étrange, a été donc le confinement. Un moment où on s'est tous retrouvés un peu chez nous. Et moi, j'ai tendance à beaucoup écrire de mes paroles et de la musique en général en regardant les autres vivre et en regardant les villes vivre et tout ça. Et c'est vrai que là, du coup, j'avais plus grand-chose à me mettre sous la dent, quoi. Mais par contre, j'avais tout un tas d'émotions qui étaient en train de se stocker et de prendre vraiment beaucoup de place. Et le fait de faire de la musique instrumentale m'a permis à la fois de pas avoir à mettre des mots sur ces émotions, mais pourtant de pouvoir les sortir, quoi.
De rêver aussi, on en parlait au tout début d'émission.
Ouais.
Alors, quelle influence la musique classique a-t-elle sur votre écriture à la trompette ?
Eh ben, je pense beaucoup d'influence, à vrai dire, sur les arrangements, sur les orchestrations. Je pense que c'est très lié à beaucoup de souvenirs assez différents. J'ai fait quand j'étais assez petit, j'ai fait de l'orchestre d'harmonie dans le Nord. C'est quelque chose d'assez commun pour les petits. Et c'est des endroits où se croisent à la fois des tout jeunes musiciens qui commencent à peine, que des papys à la retraite qui reprennent leur instrument qui jouaient dans leur jeunesse ou à l'armée ou je ne sais quoi, que des mecs qui ou des femmes qui font le prix du conservatoire, qui présentent la médaille d'or.
Voilà, tous les niveaux sont acceptés.
Tous les niveaux acceptés. Du coup, quelque chose de très populaire et très bienveillant. Et avec beaucoup de cuivre et de choses comme ça. Donc ça a une influence à la fois... Ça, je sais que c'est une grosse influence à la fois musicale, mais aussi dans la manière de partager le fait de faire de la musique avec les autres. C'est-à-dire de pas juger le niveau des autres, mais juste faire avec ce que les gens sont et essayer de faire quelque chose où finalement on va tout autant s'amuser que faire de la musique, quoi.
Eh bien, vous nous partagez vos choix musicaux dans cette émission. Ouais. Voyou, on va écouter, eh bien, le suivant, A Young Girl's Complaint, la complainte d'une jeune fille, un titre interprété et composé par Emma Otsege, Mariam Gebrou. Complainte d'une jeune fille éprouvée par la dureté de la vie, ce titre ici de Emma Otsege, Mariam Gebrou. Ça vous fait rire?
Ça me fait rire un peu. Je ne devrais pas.
Mais... Non, mais cela dit, c'est une musique pleine de nostalgie. On
ouais.
sent cette tristesse.
Mais oui, mais elle est très très forte pour ça, cette dame. Je crois qu'elle est encore vivante, mais elle est extrêmement vieille.
Mais parlez-nous d'elle.
Bah, elle a une vie assez incroyable. Elle a fini nonne. C'est une Éthiopienne qui, en fait, a été une des plus grandes activistes féministes en Éthiopie. Donc c'est quand même, on s'attendrait pas à ça venant d'une religieuse. Mais en fait, elle a une vie assez incroyable. Je crois qu'elle a étudié en France, en Suisse. Elle était assez proche un peu de la cour royale éthiopienne. Je connais pas trop la politique éthiopienne, mais en tout cas, c'était une femme extrêmement éduquée et qui faisait du piano juste pour son plaisir à elle et pour le plaisir de la musique, et je trouve que c'est une musique qui fait extrêmement du bien. Tous ces morceaux m'accompagnent vraiment tous les jours.
Et si je ne dis pas de bêtises, cet enregistrement date des années 60. Elle est née en 1923. Comment êtes-vous tombée justement sur cette compositrice peu connue finalement du grand public ?
Eh ben, en traînant chez les disquaires en fait. Mais en fait, oui, il y a un label qui a repressé des compilations qui s'appellent les Éthiopiques, qui sont des... À chaque fois, ils mettent en lumière un artiste, donc ils ont fait ça avec des artistes assez connus, et avec cette dame, et ça m'avait assez bouleversé, je dois dire, hein, d'entendre sa musique. Et du coup, à ce moment-là, j'ai tout téléchargé, et j'ai cherché le vinyle partout, et je ne l'ai jamais trouvé. Et à partir de ce moment-là, j'ai cherché le vinyle vraiment dans tous les disquaires possibles, et sur Internet, et partout. Et un jour, il y a un label qui a décidé de le represser. Et voilà, et depuis il est chez moi, et ça fait vraiment partie des musiques que j'écoute à la fois le matin pour me réveiller et le soir pour m'endormir, parce que ça me fait beaucoup de bien. Et il y a peu de musique, quand on passe une journée entière à composer de la musique, il y a peu de musique qu'on puisse écouter et je sais pas, et que ça nous vide la tête.
Quoi.
Bah même pas, mais justement quand on fait de la musique toute la journée, on a tout le temps des notes dans la tête et on a du mal à écouter d'autres choses. Et elle, pour le coup, j'écoute ça et ça me calme instantanément. Quoi.
France Musique. Saskia Deville.
Extrait de ce thème de Moondog, choisi par notre invité aujourd'hui sur France Musique, Voyou, musicien pop ici, ce compositeur inclassable, hein, Moondog,
ouais,
entre tous les styles, qui a beaucoup de succès aussi auprès de nos invités dans cette émission,
c'est vrai,
oui.
Ça m'étonne pas, je pense qu'il a quelque chose d'assez fascinant cet homme quand même. Hein. Et c'est vrai qu'il a fait des choses très très différentes, il a commencé un peu plus vers le jazz je crois. Et après, c'est devenu de la musique classique, de la musique contemporaine. Enfin, c'est vrai que il est très, très inclassable. J'avais un ami à Nantes qui est spécialiste de lui et qui a écrit des tonnes et des tonnes de livres sur lui. Et du coup, ça m'a fasciné de me dire, ah, il y a autant de choses à dire sur cet homme. Et du coup, j'ai écouté sa musique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, je crois.
Un musicien inspirant aussi, peut-être ?
Ben, quand même, ouais. Mais en fait, ce que je trouve inspirant, c'est justement le fait qu'il ne soit pas cantonné à faire un style de musique dans lequel il réussissait déjà, quoi. C'est que d'un coup...
C'est la curiosité.
La curiosité, et puis surtout la... Enfin, je trouve que des gens qui font toujours des musiques différentes et qui restent curieux, c'est aussi des gens qui continuent à nous intéresser et surtout qui montrent qu'ils sont dans un processus toujours de recherche par rapport au fait de faire de la musique. Et ils s'arrêtent jamais d'apprendre sur eux-mêmes et sur ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est assez inspirant, je trouve ça.
Et vous êtes vous-même très curieux, hein, Voyou. Je vous ai demandé bien de nous proposer quelques pistes à écouter, quelques morceaux à écouter dans cette émission. Et vous m'en avez envoyé... trop. Donc il faut faire des choix. On avait le choix entre la 25e symphonie de Mozart, je pense qu'il vous rappelait le film Amadeus de Miloš Forman peut-être.
Eh ben pas exactement ça. Ça me rappelait surtout des moments où j'ai commencé à l'époque où les vinyles commençaient à reprendre de la valeur. J'allais dans les Happy Cash et j'achetais plein de vinyles de musique classique parce que c'était les trucs qui coûtaient vraiment pas
cher.
C'est
vrai que ça coûtait rien du tout.
et du coup, j'ai rempli mes armoires de ces choses-là et ça fait partie des morceaux qui m'ont vraiment popé au visage. Enfin, qui m'ont rappelé des souvenirs. Quoi.
Alors, vous m'avez proposé également la danse macabre de Camille Saint-Saëns et le premier mouvement de la symphonie inachevée de Franz Schubert. Il va falloir faire un choix. Voyez, on termine avec quoi ?
Je pense qu'on peut terminer avec Saint-Saëns quand même.
Saint-Saëns, ouais. Pas Schubert ?
Bah, Schubert, j'ai un attachement particulier pour lui. C'est un compositeur que j'ai beaucoup écouté, aussi que j'ai aussi beaucoup retrouvé dans ses disques que je chopais dans les Emmaüs. Et c'est aussi, quand j'étais plus jeune, j'avais un groupe de rock. Et avec ce groupe, en fait, une année, le René Martin, le président des Folles Journées de Nantes, puisque j'habitais à Nantes à ce moment-là, nous a proposé de reprendre une œuvre de notre choix dans les artistes qui étaient à l'affiche des Folles Journées de cette année-là. Donc la première année, on l'a fait avec le Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Et c'était super. Et après, on a fait La Jeune Fille à la Mort de Schubert l'année d'après. Et ça m'a replongé dans ce compositeur que j'adore et je pense qu'il est un de mes compositeurs préférés.
Eh bien, nous partageons cet amour pour Schubert, voyou.
Mais c'est le premier artiste pour moi à avoir fait vraiment de la pop avec des thèmes aussi simples et aussi fluides et aussi beaux.
Avec des mélodies qui tombent directement dans l'oreille et qui ne nous abandonnent jamais. Allez, c'est vous quand même le programmateur de cette émission, voyou. On va terminer avec La Danse Macabre de Camille Saint-Saëns que vous avez choisi pour nous avec Andrew Wan, l'Orchestre Symphonique de Montréal, Kent Nagano, à la direction. Merci mille fois d'être venu nous voir en attendant la sortie d'un nouvel album. Je pense que vous êtes en pleine écriture, donc bonne écriture à vous et que la musique classique vous nourrisse, continue à vous inspirer sur cette voie-là. Merci aussi à toute l'équipe, François Connac, Pauline Boisaubert et Bruno Mourlan. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de France. Vous êtes très bientôt.
À réécouter sur francemusique.fr.